podcast de Radio Vatican.
Il y a tout juste 10 ans, l'économie mondiale connaissait une crise sans précédent. À l'été 2007, le terme de subprimes, ces emprunts à risque, tombait dans le vocabulaire commun. La bulle spéculative immobilière aux États-Unis finissait par exploser, gagnant peu à peu d'autres continents, l'Europe en particulier. 10 ans plus tard, après de nombreuses faillites et la hausse du chômage, les effets de la crise se font encore ressentir et les mécanismes de régulation mis en place semblent menacés, comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis, votée sous Barack Obama et que l'administration Trump veut abroger. Si la croissance est repartie dans plusieurs pays, les incertitudes sont encore nombreuses. A-t-on réellement tiré les leçons de la plus grande crise économique depuis 1929 ? L'analyse de Michel Alietta, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Paris 10 et conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale.
La crise était liée à un processus de dérive dans lequel l'endettement a progressé énormément, a entraîné une hausse, si vous voulez, des prix de l'immobilier essentiellement, hein, c'est une crise qui relie l'excédent d'endettement à l'immobilier et a produit donc un retournement très fort de ses prix, ce qu'on appelle l'éclatement d'une bulle spéculative. Elle a eu des effets de long terme pour la raison suivante. Les bilans des acteurs qui s'étaient engagés très fortement dedans, qu'ils soient des acteurs non financiers, c'est-à-dire les ménages américains, mais aussi des entreprises qui avaient énormément investi pour la construction immobilière dans beaucoup de pays, ont créé des bilans déséquilibrés, c'est-à-dire que les dettes sont restées alors que la valeur des biens qui avaient été achetés en contrepartie s'est effondrée. Et la question importante, c'est que quand les bilans sont devenus non équilibrés, ceci, c'est très long pour arriver à récupérer une situation normale.
L'endettement des entreprises ou des pays est toujours très fort partout dans le monde. En quoi est-ce problématique ?
Ça revient alors beaucoup plus ancien, hein. C'est-à-dire que c'est développé à partir des années 1980, ce qu'on appelle un capitalisme financiarisé, un capitalisme qui joue uniquement l'intérêt dit des actionnaires, hein, valeur actionnariale comme on dit, qui s'est traduit par une baisse énorme de la part des salaires et donc une inégalité sociale considérable. Le résultat de ce processus qui consiste à créer le besoin d'un taux de profit très très élevé sur le plan financier, purement financier, entraîne une logique dans laquelle le capital ne cherche pas à investir productivement. Donc c'est ce qui fait que vous avez une progression énorme des revenus des plus riches. Et ça affaiblit totalement le régime de croissance. Quand vous avez étouffé le lien entre salaire et productivité, que vous avez déconnecté totalement en la hausse des revenus salariaux, vous ne pouvez pas avoir de croissance autrement que par l'instabilité financière.
À vous entendre, les leçons de cette crise n'ont toujours pas été tirées.
On peut dire que les banques sont moins fragiles qu'elles ne l'étaient avant 2007, hein, et c'est probable. Hein. Mais c'est développé du fait de la possibilité d'une finance libre de contourner les difficultés, si j'ose dire. C'est développé une finance parallèle, quoi, ça s'appelle le shadow banking, qui a été un vecteur très important de la progression de l'endettement après la crise, hein, après 2008. Et là il y a des dangers parce que l'on retombe sur l'opacité. Les dettes ont progressé énormément dans les pays émergents qui étaient moins endettés puisqu'ils n'avaient pas participé à cette bulle immobilière. Au contraire, ils étaient excédentaires, ils avaient accumulé des réserves, heureusement d'ailleurs, dans les années 2000. Et donc, vous avez aujourd'hui une généralisation de l'endettement au monde entier. Si on fait le rapport entre la dette publique et privée sur le PIB mondial, c'est des choses que fait le Fonds monétaire, on s'aperçoit qu'il est plus élevé qu'il ne l'était avant la crise.
L'une des réactions à la crise il y a 10 ans a été la mise en place de mécanismes de régulation de la spéculation financière notamment. Et aujourd'hui, certains ne cachent pas leur volonté de faire une pause dans cette régulation, notamment la nouvelle administration américaine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Il faut s'en inquiéter beaucoup. C'est en effet peut-être un des principaux problèmes d'aujourd'hui, pour plein de raisons. C'est-à-dire les Américains se retirent de tous les accords internationaux qu'ils avaient conclus. ce qui évidemment crée une incertitude considérable dans la finance. Le pire pour un système financier, c'est quand un gouvernement crée de l'incertitude délibérément, puisque Trump cherche à faire des deals, et pour essayer d'imposer ses deals, il fait des annonces, ces annonces ne sont pas satisfaites, donc les anticipations rechangent, etc. Vous avez une forte volatilité qui commence à se faire sur les marchés financiers du fait de l'incertitude américaine.
Un des enseignements de cette crise est le creusement du fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Comment y remédier selon vous ?
Comment sortir ? Vous voyez que le mode de croissance aujourd'hui ne peut pas être transformé sans une transformation structurelle très profonde. Il faut que les États reprennent en charge la direction de l'économie, qu'on réduise, si vous voulez, le poids de cette finance de marché, que l'on cherche au contraire à créer une finance de long terme, c'est-à-dire inciter des investisseurs institutionnels qui normalement doivent avoir un horizon long à investir dans des investissements productifs pour le futur, notamment pour tout ce qui est la transition énergétique, le changement climatique, la sécurité, le numérique, mais aussi investir plus dans les ressources humaines de façon à créer des compétences nouvelles, parce que ces compétences se sont détruites au fur et à mesure où la croissance s'affaissait. Mais cette transformation-là suppose des changements, à mon avis, à la fois politiques et sociaux considérables. Et le danger, c'est, comme à chaque fois que vous changez de régime de croissance, on passe par une période de crise prolongée.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.